Chapitre 8, consulterons-nous des médecins spirites? Or, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Ce récit montre d'une façon frappante le déplaisir de Dieu à l'égard de ceux qui se détournent de lui pour s'adresser à des agents sataniques. Peu de temps avant les événements rapportés ci-dessus, le royaume d'Israël avait changé de chef. Achab était tombé sous le jugement de Dieu et il avait été remplacé par son fils Acasia, personnage sans valeur, qui fit non seulement ce qui est mal aux yeux de l'Éternel mais qui marcha sur les traces de son père et de sa mère, et fit pécher Israël. Il servit Baal et l'adora. Il provoqua la colère du Dieu d'Israël comme l'avait fait son père Achab. Mais les jugements suivirent de près les péchés du roi rebelle. Une guerre avec Moab, puis l'accident par lequel sa vie fut menacée, attestèrent la colère de Dieu contre Acasia. Combien souvent, au temps de son père, le roi d'Israël n'avait-il pas entendu parler et n'avait-il pas été témoin des œuvres merveilleuses du Très-Haut? Quelle terrible épreuve de sa sévérité et de sa jalousie Dieu n'avait-il pas donné à Israël apostat? Acasia était au courant de tout cela, et cependant, il agit comme si toutes ces terribles réalités, et même l'épouvantable fin de son père n'étaient que des contes frivoles. Plutôt que d'humilier son cours devant le Seigneur, il osa le plus terrible acte d'impiété qui ait marqué sa vie. Il dit à ses serviteurs, « Allez, consultez Baal-Zébub, le dieu d'Écron pour savoir si je guérirai de cette maladie. » On croyait que l'idole d'Écron prédisait l'avenir par l'intermédiaire de ses prêtres. Cette croyance était tellement répandue, que des foules venaient de très loin pour consulter l'idole. Les prédictions qui y étaient faites et les renseignements qui y étaient donnés, émanaient directement du prince des ténèbres. C'est Satan qui a créé et qui maintient le culte des idoles pour distraire de Dieu les esprits des hommes. C'est par son entremise qu'est entretenu le royaume des ténèbres et de la fausseté. L'histoire du péché et du châtiment du roi Acasia comporte un avertissement qu'on ne peut impunément dédaigner. Bien que nous ne rendions pas hommage à des dieux païens, des milliers de gens adorent cependant à l'autel de Satan aussi réellement que le fit le roi d'Israël. L'esprit même de l'idolâtrie païenne domine aujourd'hui, bien qu'il revêtait une forme plus raffinée et plus attrayante sous l'influence de la science et de l'éducation. Chaque jour confirme le fait que la foi dans la surparole de la prophétie décroît rapidement et qu'à sa place, la superstition et la sorcellerie satanique captivent l'esprit des hommes. Tous ceux qui ne sondent pas les Écritures avec ferveur, soumettant chaque désir et chaque dessein de leur vie à cet infaillible critère, tous ceux qui ne cherchent pas Dieu dans la prière pour connaître sa volonté, s'égareront sûrement loin du droit sentier et ils tomberont dans les piges de Satan. Instrument de la puissance de Satan. Les oracles païens ont leur contrepartie dans les médiums, les voyants et les diseurs de bonne aventure actuelle. Les voix mystérieuses qui parlaient à Écron, et à Endor égarent encore les enfants des hommes par leurs paroles mensongères. Le prince des ténèbres n'a fait qu'apparaître sous un nouveau déguisement. Les mystères du culte païen sont remplacés par les associations, les séances secrètes, l'obscurité et les merveilles des sorciers de notre temps. Leurs révélations sont reçues avidement par des milliers de personnes qui refusent d'accepter la lumière de la parole de Dieu ou de son esprit. Alors que ces personnes parlent avec mépris des magiciens d'autrefois, elles se laissent prendre aux artifices du grand séducteur, lesquels sont présentés sous une forme différente. Aussi celui-ci triomphe-t-il en ricanant. Ces agents prétendent encore pouvoir guérir la maladie. Ils attribuent leur puissance à l'électricité, au magnétisme ou au prétendu remède sympathique. En vérité, ils ne sont que les fils des courants électriques de Satan. Par ce moyen, ce dernier répand son charme sur les corps et sur les esprits des hommes. J'ai parfois reçu des lettres de pasteurs et de membres d'églises demandant s'il était mal de consulter des médecins spirites ou voyants. Je n'ai pas répondu à ces lettres, faute de temps. Mais maintenant le sujet s'offre de nouveau à mon attention. Ces agents de Satan deviennent si nombreux, et la coutume de rechercher leur avis se répand tellement, qu'il semble nécessaire de donner des paroles d'avertissement. Dieu nous a accordé la possibilité d'acquérir la connaissance des lois de la santé. Il nous a fait un devoir de conserver nos facultés physiques dans le meilleur état possible, afin que nous puissions lui rendre un service acceptable. Ceux qui refusent d'accroître la lumière et la connaissance qui ont été si miséricordieusement mises à leur portée, rejettent un des moyens que Dieu leur a accordés pour favoriser leur vie physique aussi bien que leur vie spirituelle. Ils se placent dans des conditions qui les exposent aux supercheries de Satan. Parmi les chrétiens, nombreux sont ceux qui s'adressent aux esprits mauvais plutôt que de se confier en la puissance du Dieu vivant. La mère qui veille au chevet de son enfant malade s'écrie « Je ne puis rien faire de plus. N'y a-t-il pas un médecin qui possédait le pouvoir de guérir mon enfant ?» On lui parle alors des guérisons merveilleuses opérées par quelque voyant ou par quelque guérisseur magnétique, et elle lui confie celui qu'elle aime, le mettant entre les mains de Satan aussi sûrement que si celui-ci était à côté d'elle. Dans bien des cas, la vie future de l'enfant est contrôlée par une force satanique qui semble impossible à briser. Beaucoup de gens refusent de faire l'effort nécessaire pour acquérir la connaissance des lois de la vie et des simples moyens à employer pour rendre la santé. Ils ne considèrent pas la vie d'une façon normale. Quand la maladie est le résultat de leur transgression des lois naturelles, ils ne cherchent pas à corriger leurs erreurs et à implorer ensuite la bénédiction de Dieu, mais ils ont recours aux médecins. S'ils recouvrent la santé, c'est à ces derniers et aux médicaments qu'ils l'attribuent. Ils sont toujours prêts à idolâtrer la force et la sagesse humaine, ne semblant connaître d'autre Dieu que la créature qui n'est pourtant que cendre et poussière. J'ai entendu une mère plaider auprès d'un docteur incroyant pour qu'il sauve son enfant. Mais lorsque je l'engageais à chercher l'aide du grand docteur qui est capable de sauver à la dernière extrémité tous ceux qui viennent à lui avec foi, elle se détourna avec impatience, manifestant le même esprit qu'Acasia. Il n'est pas prudent d'avoir foi en des médecins qui ne possédant pas la crainte de Dieu. Sans l'influence de la grâce divine, le cours est trompeur et désespérément malin par-dessus toute chose. Ils ont pour but leur propre gloire. Que d'iniquités ont été cachées sous le couvert de la profession médicale. Que de tromperies ont été endurées. Le médecin peut prétendre posséder une grande sagesse et une merveilleuse habileté alors que son caractère est dissolu et ses habitudes contraires aux lois de la vie. Le Seigneur notre Dieu nous assure qu'il est tout disposé à nous venir en aide. Il nous invite à nous adresser à lui au jour difficile. Comment pouvons-nous nous détourner de lui pour nous confier aux bras de la chair? Entrez avec moi dans cette chambre. Un malade est couché. C'est un père de famille, un homme qui est en bénédiction à la société et à la cause de Dieu. La maladie l'a subitement terrassé. L'ardeur de la fièvre semble le consumer. Il désire ardemment de l'eau pure pour humecter ses lèvres desséchées, pour étancher sa soif dévorante et rafraîchir son front enfiévré. Mais non, le docteur a interdit l'eau. On donne au malade une boisson forte qui jette de l'huile sur le feu. L'eau bienfaisante, ce don du ciel, habilement appliqué, éteindrait la flamme dévorante, mais elle est écartée au bénéfice de drogues empoisonnées. Pendant un certain temps, la nature combat pour la défense de ses droits, mais à la fin, vaincue, elle abandonne la lutte et la mort libérée celui qui souffre. Dieu voulait que cet homme vive et qu'il soit en bénédiction au monde. Satan avait résolu de le détruire, et il y réussit par l'entremise du docteur. Jusqu'à quand laisserons-nous éteindre ainsi nos lumières les plus précieuses? Acasia envoya ses serviteurs consulter Baal-Zébub à Écron. Mais au lieu d'un message de l'idole, il entendit la terrible déclaration du Dieu d'Israël, « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. C'était le Christ qui plaçait dans la bouche d'Élie ces paroles adressées au roi apostat. L'Éternel avait grandement raison d'être mécontent de l'impiété d'Acasia. Que n'avait-il pas fait pour gagner le cours des pécheurs et pour leur inspirer une inébranlable confiance en lui? Pendant des siècles, il avait donné à son peuple des manifestations d'une sollicitude sans bornes et d'un amour sans exemple. Depuis le temps des patriarches, il avait montré qu'il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Il avait été un secours immédiat pour tous ceux qui l'avaient cherché avec sincérité. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Cependant, Israël s'était révolté contre Dieu, et il s'était tourné vers le pire ennemi de l'Éternel. Les Hébreux étaient la seule nation qui avait eu la faveur de connaître le vrai Dieu. Quand le roi d'Israël envoya des messagers consulter l'oracle du dieu d'Écron, il montra aux païens qu'il avait plus de confiance dans leurs idoles que dans le dieu de son peuple, le créateur des cieux et de la terre. De même, ceux qui prétendent connaître la parole de Dieu le déshonorent quand ils se détournent de la source de la sagesse et de la force pour chercher aide ou conseil auprès des puissances des ténèbres. Si la colère de Dieu s'enflamma à cause de cette façon d'agir d'un roi méchant et idolâtre, comment considéra-t-il une semblable attitude de la part de ceux qui se disent ses serviteurs? Confiance en Dieu et obéissance aux lois naturelles. Pourquoi les hommes désirent-ils si peu se confier en celui qui les a créés et qui, d'un attouchement, d'un mot, d'un regard, a la possibilité de guérir toutes sortes de maladies? Qui est digne de notre confiance plus que celui qui a fait un si grand sacrifice pour notre rédemption? Notre Seigneur nous a donné des instructions précises, par l'apôtre Jacques, en ce qui concerne notre devoir lorsque nous sommes malades. Quand les hommes sont impuissants, c'est Dieu qui vient à notre secours. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Si, en toute pureté de cœur, ceux qui prétendent servir le Christ voulaient avoir autant de foi dans les promesses de Dieu qu'ils en ont dans les agents de Satan, ils réaliseraient dans leur âme et dans leur corps la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Dieu a accordé une grande lumière à son peuple. Cependant, nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. Quels sont parmi nous ceux qui invoquent les dieux d'Écron? Chez combien de personnes, même parmi les adventistes du septième jour, peut-on voir ce qui doit caractériser les enfants de Dieu? Voyez ce tableau, qui n'est pas tiré de l'imagination. Un malade, apparemment très sincère, mais fanatique et orgueilleux, avoue ouvertement son mépris pour les lois de la santé et de la vie, lois que la miséricorde divine nous a amenés à accepter en tant que peuple de Dieu. Il veut que ses aliments soient préparés de façon à satisfaire son appétit dépravé. Plutôt que de s'asseoir à une table pourvue d'une nourriture saine, il fréquente des restaurants, où il pourra manger comme il l'entend. Avocat éloquent de la tempérance, il en néglige les principes fondamentaux. Il désire être guéri, mais ne veut consentir à aucun renoncement. Cet homme rend un culte à l'autel de la gourmandise. C'est un idolâtre. Ses facultés qui, sanctifiées et ennoblies, pourraient être employées à honorer Dieu sont affaiblies et de peu d'utilité. Un caractère irritable, un cerveau confus et des nerfs affaiblis, voilà quelques-uns des résultats de son mépris des lois naturelles. C'est un incapable auquel on ne peut se fier. Si quelqu'un a le courage et l'honnêteté de l'avertir du danger auquel il s'expose, il encourt son déplaisir. La remontrance ou l'opposition la plus légère suffit à exciter son esprit combatif. Mais voici qu'une occasion se présente d'entrer en contact avec une de ces puissances qui se manifestent grâce à la sorcellerie. Il se tourne alors de ce côté avec ferveur, dépensant sans compter son temps et son argent dans l'espoir de s'assurer l'avantage proposé. Il est séduit, subjugué. La puissance du sorcier devient le thème de ses louanges et ainsi d'autres sont incités à avoir recours à cette puissance. Le Dieu d'Israël est alors déshonoré tandis que Satan est révéré et exalté. Au nom du Christ, je voudrais dire à ceux qui prétendent être ses disciples, Demeurez dans la foi que vous avez reçue dès le commencement. Évitez les conversations profanes et vaines. Plutôt que de mettre votre confiance dans la sorcellerie, ayez foi dans le Dieu vivant. Le sentier qui conduit à Endor ou à Écron est maudit. Ils broncheront et tomberont, ceux qui s'aventurent sur le sol interdit. Le Dieu d'Israël peut délivrer tous ceux qui sont opprimés. La justice est la base de son trône. Il y a du danger à s'éloigner, si peu que ce soit, des instructions du Seigneur. Quand nous nous écartons du simple sentier du devoir, une foule de circonstances semble nous entraîner irrésistiblement de plus en plus loin du droit chemin. Avant que nous n'en soyons conscients, des familiarités inutiles avec ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu nous séduiront. La crainte de choquer nos amis mondains nous empêchera d'exprimer notre gratitude à Dieu ou d'admettre notre dépendance à son égard. Nous devons nous en tenir scrupuleusement à la parole de Dieu. Nous avons besoin de ses avertissements et de ses encouragements, de ses menaces et de ses promesses. Nous avons besoin de l'exemple parfait que seule la vie et le caractère de notre Sauveur peuvent nous offrir. Ne pas s'aventurer sur le terrain de Satan. Des anges de Dieu garderont son peuple aussi longtemps qu'il marchera dans le sentier du devoir. Mais ceux qui s'aventurent délibérément sur le terrain de Satan n'ont pas l'assurance d'une telle protection. Si un agent du grand imposteur se présente, il fera et dira n'importe quoi pour atteindre son but. Peu lui importe de s'appeler spirit, docteur en électricité ou guérisseur magnétique. Par des prétentions spécieuses, il gagne la confiance de ceux qui ne sont pas sur leur garde. Il prétend lire l'histoire de la vie et comprendre toutes les afflictions et toutes les difficultés de ceux qui s'adressent à lui. Se déguisant en ange de lumière, alors que les ténèbres de l'abîme sont dans son cours, il manifeste un grand intérêt pour les femmes qui recherchent son conseil. Il leur dit que toutes leurs difficultés sont dues à des mariages malheureux. Ceci peut n'être que trop vrai, mais un tel conseiller n'améliore pas leurs conditions. Il leur dit aussi qu'elles ont besoin d'amour et de sympathie. Prétextant un grand intérêt pour leur bonheur, il jette un sort sur ces innocentes victimes, les charmant comme le serpent charme l'oiseau tremblant. Elles sont bientôt complètement en son pouvoir, le péché, la honte et la ruine résultent de cette pratique. Ces ouvriers d'iniquité ne sont pas rares. Des foyers dévastés, des réputations ruinées et des cours brisés sillonnent leur chemin. Mais le monde est peu éclairé à ce sujet, et les suppôts de Satan continuent à faire de nouvelles victimes tandis que leur maître exulte de la ruine qu'il accomplit. Le monde visible et le monde invisible sont en contact étroit. Si le voile pouvait être levé, nous pourrions voir les mauvais anges accumulant les ténèbres autour de nous et travaillant de toutes leurs forces pour tromper et pour détruire. Les hommes méchants sont entourés, influencés et stimulés par les mauvais esprits. L'homme de foi et de prière a remis son âme à la garde de Dieu et, du ciel, les anges du Seigneur lui apportent force et lumière. Nul ne peut servir deux maîtres. La lumière et les ténèbres ne sont pas plus opposées que le service de Dieu et le service de Satan. Le prophète Élie présenta la chose sous son véritable jour quand il adressa cet appel à Israël apostat. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. Ceux qui s'abandonnent à la sorcellerie de Satan peuvent se vanter des grands avantages qu'ils ont reçus par ce moyen, mais cela prouve-t-il la sagesse ou la sûreté de leur attitude? Une prolongation de vie? Un gain temporel? Cela compensera-t-il en fin de compte le mépris de la volonté de Dieu? Tout ce profit apparent se soldera à la fin par une perte irréparable. Nous ne pouvons impunément abattre une seule des barrières que Dieu a élevées pour protéger son peuple de la puissance de Satan. Notre unique moyen de sécurité est de conserver les anciennes bornes. À la loi, et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple.